Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Dans un roman écrit comme un conte, Sophie van der Linden évoque notre relation à l'Orient, ou plus exactement, notre vision occidentale d'un Orient fantasmé. Et le roman a beau se dérouler au début du 19e siècle, le sujet est toujours d'actualité. Après Constantinople est le titre de ce roman édité par Gallimard dans la collection Signes. L'auteur est avec nous ce matin et en deuxième partie, d'autres coups de cœur littéraires, entre autres partagés avec le magazine Transfuge, donc une occasion de retrouver Oriane Jeancourt. Bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours à 6h du matin si vous êtes lève-tôt ou quand vous voulez en passant par l'abonnement au podcast. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Alain Joubert.
Le réveil culturel, lundi. Livre.
Bonjour Sophie van der Linden.
Bonjour Toufik Hakem.
Votre roman, Après Constantinople, est écrit comme un conte, je le disais en préambule, mais alors c'est vraiment un conte qui nous invite à se méfier des contes, ou du moins tous ces contes qui ont façonné notre vision de l'Orient. Votre roman met en scène, sur un cheval d'ailleurs, non pas un prince ou un chef guerrier, mais un peintre du 18e, nourri depuis son enfance de contes orientaux, habité donc par un imaginaire oriental, on pourrait le dire, et qui va être confronté à l'Orient, le vrai, celui qui se niche quelque part dans une des montagnes de l'Empire ottoman. Alors, la bonne idée de votre roman, c'est que ce peintre n'est pas orientaliste. Du moins, au début, il n'est pas du tout orientaliste.
Non, il est animé d'une idée de l'Orient, en fait, façonnée par ses lectures. Lorsqu'il arrive en Orient et au Caire singulièrement, il est extrêmement déçu de la réalité abrupte de cet Orient, très loin de ses images.
Et l'orientalisme a beau être à la mode, lui, c'est vraiment un peintre naturaliste, hein, qui peint plutôt des scènes historiques ou de la vie courante, restituant un peu la nature, avec réalisme plutôt.
Oui, un réalisme velouté, animé par son goût des textiles, mais aussi de la chair humaine, de la chair des femmes, qu'il peint comme des nacres.
Oh, et là, on arrive à vraiment au point de où va se fixer la dramaturgie de ce conte, de cette épopée, puisque effectivement, ce peintre se passionne pour les fustanelles.
Alors, les fustanelles, tout le monde les a en tête sans en connaître forcément le nom. Ce sont ces jupons de coton extrêmement légers que portaient les serviteurs de l'Empire ottoman, les bachibouzouks notamment, ces jupons à 1000 plis qu'on retrouve aussi chez les soldats grecs, et qui lui résistent.
Il n'arrive pas à les reproduire.
Il y a un blanc qui ne convient pas, en tout cas pour la peinture qu'il a avec lui. Il y a des ombres qu'il n'arrive pas à maîtriser. Ça devient une obsession parmi d'autres. Et c'est ce qui va le faire quitter le voyage, la délégation avec laquelle il était en cours, remonter par des voies incertaines, une chevauchée qui le mène de Constantinople aux confins de l'Empire ottoman dans les Balkans, et on l'attrape effectivement au début du récit dans cette chevauchée.
Et on se dit, mais pourquoi il n'est pas resté à Paris alors qu'il avait une fiancée bien placée là? Fiancée, puisque c'est la fille d'un grand collectionneur, qu'elle est jolie, qui pouvait avoir une carrière, et ben non, il est appelé par ce besoin de se procurer ce tissu, et le voilà parti avec vous, Sophie van der Linden, dans une aventure. Il va tout vivre, c'est un voyage risqué avec tant de noyades, de bastonnades, tant de coups de sabre pour des malentendus linguistiques ou culturels, dites-vous dans votre récit, il va enjamber des balcons, braver des périls, et tout ça pour se retrouver. Et c'est ça la force de votre roman, parce que vous parlez de l'orientalisme, mais vous ne versez jamais dans l'orientalisme. Donc on n'a pas la description d'un Orient Constantinople ou le Caire et Bagdad. Non, on est quelque part, au milieu de nulle part, dans des montagnes. D'ailleurs, s'il fallait nous situer ces montagnes, j'ai essayé à partir de vos indications, c'est-à-dire à partir de Salonique, d'essayer de trouver où se déroule ce roman. Je ne sais pas, c'est où.
Je serais bien en peine de vous le dire moi-même, mais enfin, on est quelque part dans le sud de l'Albanie, dans ces régions non contrôlées à l'époque, pleines de rebelles. Et effectivement, on est dans un environnement finalement assez rude, avec beaucoup de pierres, dans un environnement très minéral, que ce soit la montagne ou cette fabrique, d'une architecture relativement étrange qui perturbe beaucoup ce peintre. Et finalement, après tant d'événements, il va être prisonnier en quelque sorte de ce lieu, et sur des jours, plusieurs jours, il va être confronté à la régente de ce domaine, puisqu'il est dans une fabrique, ouais, une fabrique de fustanel d'exception. Et alors un autre rythme se met en place, puisque c'est le rythme de leur rencontre quotidienne et de leur conversation.
Et tout se joue sur justement ce face-à-face, parce que lui, il vient avec des idées de ce qu'il a pu apprendre sur l'Orient, hein, et il va être confronté à un autre regard venu d'Orient, mais cet autre regard, il est assez particulier. On peut le dire, ça aussi, Sophie van der Linden. S'il fallait parler de ce personnage, la sultane ou la régente, déjà, on apprend au fur et à mesure du récit qu'elle est noire, ce qui n'est pas un détail.
Oui, et elle est noire, ce qui est assez invraisemblable pour l'époque, qu'une femme noire dirige une fabrique, dirige des ouvriers. Il est confronté à cette femme qui le perturbe énormément, parce que elle a ce rôle inattendu, et puis en même temps elle dégage une présence qui le trouble jusque dans ses rêves. Alors ce peintre, je dois dire quand même que je l'ai façonné, ce personnage, à partir non pas d'une figure de peintre réel, mais à partir des peintures de Jean-Léon Gérôme, qui est ce peintre qu'on pourrait situer entre l'art pompier et une sorte de réalisme, effectivement, qui a beaucoup figuré alors des fustanel d'abord, lors de son voyage au Caire, mais aussi beaucoup de femmes au harem, au hammam, etc., et qui brille par l'absence, justement, de la femme noire qui est toujours habillée, qui est servante. Et il m'intéressait de le confronter à ce personnage. C'est une forme de tension entre une vision de l'Orient et une autre, entre une place de la femme et une vision qu'on peut en avoir, et bien entendu aussi ce regard sur la femme noire.
Et puis bien sûr, le thème de votre roman, Après Constantinople, pour rappeler le titre, c'est aussi... qu'est-ce qu'on connaît de l'Orient et quelles sont les idées préconçues qu'on a de cette partie du monde ?
Voilà. Il m'intéressait assez, en effet, de faire tomber quelques certitudes sans en donner d'autres.
ce qui le rend aussi d'actualité, votre roman ?
Bien sûr que la vision qu'on a aujourd'hui de l'Orient, mais plus singulièrement de l'islam, le rapport qu'on en a...
Pour donner juste un exemple, par exemple, ce peintre, il est persuadé que la peinture islamique bannit toute forme de représentation humaine, alors que vous expliquez que les choses sont plus complexes que cela.
Eh oui, il y a des figurations humaines dans l'art islamique, dans les miniatures persanes. Cet interdit n'est pas si évident que ça. Il y a l'interdit, bien sûr, ultime de la représentation du prophète, mais... Au-delà de ça, ce n'est qu'une question d'interprétation, et des courants de l'islam, des artistes de l'islam ont donné leur propre interprétation à ces supposés interdits.
De la même manière, ce que la régente, ce que la sultane va demander qu'en peinture, parce qu'il va y avoir un marché, hein, c'est-à-dire, si vous voulez avoir de la fustanelle, si vous voulez quitter ce domaine, ok, bah, faites-nous quelques peintures. Elle-même, elle a aussi une vision qui a l'air plus conforme à la réalité de ce qu'est l'art occidental de l'époque.
Oui, elle est relativement informée, puisqu'on saura qu'elle a vécu près du sultan, à Constantinople, et qu'elle a lu, et qu'elle a aussi croisé tous ces voyageurs et ces fameux orientalistes, et qu'elle les a observés avec un certain détachement et peut-être de l'amusement lorsqu'ils se sont rendus dans ces territoires, que ce soit à Constantinople ou aussi dans les Balkans, auprès du fameux Ali Pacha de Tepelena ou de Janina. Et elle a observé cela avec acuité et distance, sûrement.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Notre manière de parler de l'orientalisme, de la peinture orientaliste, en conjuguant ce phénomène à toutes les époques, y compris à aujourd'hui, c'est l'objet du roman de mon invité ce matin, Sophie van der Linden, Après Constantinople. Et au fur et à mesure que votre récit avance, avec cette tension, avec cette rencontre entre le peintre français et cette sultane noire, quelque part perdu dans cette fabrique de fustanelles dans les montagnes balkaniques, près de l'Albanie, le sud de l'Albanie, puisque vous avez donné cette précision, il y a à la fin de chaque chapitre la description d'un tableau de ce peintre. Et on le voit plus ou moins arriver à représenter les janissaires, à représenter la sultane, c'est-à-dire à faire une peinture d'Orient qui n'est pas du tout exotique, qui n'a rien à voir, qui n'a absolument rien à voir avec l'orientalisme en réalité.
Oui, alors ces tableaux sont laissés à l'interprétation finalement du lecteur. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un catalogue, des extraits d'un catalogue postérieur à cette histoire ? Est-ce que c'est un regard alors très très descriptif et factuel.
Ouais. Mais pour vous, c'est une manière aussi de parler de son évolution, de l'évolution de son regard, aussi bien l'évolution d'ailleurs de son regard que de son travail.
Oui, parce que il est, alors c'est pas du tout évident finalement d'avoir pour personnage principal d'un roman un personnage relativement antipathique par certains, enfin dans nombre de ses aspects. Mais c'est vrai que ce personnage évolue.
Il est arrogant comme un touriste français à l'étranger, mais il a des côtés sympathiques aussi.
C'est ça. Mais oui, ces peintures, à la fois leur description, mais aussi leur exécution. Relativement factuel et simple parce qu'il est aussi avec des outils très simples, donc il y a des pastels, des choses très oui, dans une forme de minimalisme auquel il n'est pas habitué. Bien entendu, ces peintures sont aussi une traduction de cette évolution de ce personnage au contact d'un monde bien plus singulier qu'il ne l'attendait.
Et pourquoi avoir décidé d'écrire ce roman, ce récit, à la manière d'un conte oriental, Sophie van der Linden ?
Je ne sais pas si c'est un conte oriental. C'est à la manière d'un conte. Est-il oriental ? Je ne sais pas. Son sujet l'est, bien entendu.
C'est un peu Scheherazade, cette sultane. On attend nuit après nuit ce qui va arriver le lendemain, même si ce n'est pas elle la prisonnière dans votre roman.
Oui,
on l'a compris.
Je pense aussi que je suis nourrie par les contes, les fameux récits libertins du 18e. Il y a quelque chose aussi de vivant de nom, point de lendemain, dans ce qui me nourrit, dans ce choix effectivement du conte, puisque les personnages ne portent pas de nom, de patronyme, ils sont désignés par leur fonction ou leur statut. Mais oui, Orhan Pamuk parle quand il dit je fais des romans sur des sujets orientaux avec un style du roman occidental du 19e siècle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette construction aussi dans la forme du texte d'une rencontre là aussi entre Occident et Orient, bien sûr.
Et quelle est votre histoire avec l'Orient ou le monde arabo-musulman, comme on dit plus volontiers aujourd'hui, Sophie van der Linden ?
Bien, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je crois qu'il y a dans notre société tellement de certitudes et de préjugés qu'il me donne envie d'aller y voir de plus près, tout simplement. Je suis pas du tout une spécialiste de l'Orient. J'ai des lectures comme d'autres, fait des voyages comme d'autres.
Où ça ?
Forcément en Albanie, mais un peu plus loin aussi, en Asie centrale, sur d'autres racines et d'autres entremêlements de l'islam avec d'autres cultures.
Et questionnons le peintre qui est en vous, le peintre de votre roman qui est en vous. Quelles sont les découvertes, à quel point ces voyages ont remis en question votre vision de l'Orient ?
Ah, j'espère ne pas y être allée en touriste que vous décriviez.
Moi, je n'ai pas dit qu'en touriste, je dis, est-ce que ça a changé le fait de découvrir sur place
Bien
la culture
sûr, ça, enrichit, ouais. ça permet de,
est-ce que
de
ça,
comprendre
ça,
les
ça
liens.
Ça a remis en cause la vision que vous aviez avant, comme pour revenir sur à votre roman.
Remise en cause, peut-être pas, mais enrichir, à l'évidence, une vision des liens. Que l'on peut partager et puis aussi de l'importance de cette culture. C'est vrai qu'on parle assez peu finalement de l'islam comme une culture et c'est aussi cette découverte-là que j'en retiens de ces voyages.
Après Constantinople, c'est édité par Gallimard dans la collection Signes. Vous restez avec nous, Sophie van der Linden.
Istanbul, Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je suis allé un jour pour y découvrir le grand amour que l'on attend toujours. Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je l'ai trouvé un soir qui flânait au milieu de la foule d'Istanbul. Le muezzin chantait en haut d'un minaret. Et tout le long du Bosphore, je faisais déjà des rêves de Istanbul. La vie était belle, c'est à Istanbul. Je me le rappelle quand mon cœur fut pris par les sortilèges de l'Asie. Je l'ai suivi dans la foule un soir sous le beau ciel d'Istanbul.
Istanbul, 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 Istanbul.
Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, au Constantinople que je me voyais déjà arrivé au paradis d'Allah qui vous attend là-bas. Oh Istanbul, ça n'est plus l'Europe, c'est à Istanbul, au Constantinople que je m'approchais en me faufilant au milieu de la foule d'Istanbul. Je ne savais comment traduire mes sentiments. Mais en riant, elle me dit, comme vous, j'arrive droit de Paris. Oh, Istanbul, c'est Constantinople, c'est à Istanbul, Constantinople que nous avons pris. Le train qui nous ramène à Paris, loin du bruit et de la foule. C'est bon de rêver à Istanbul.
Après Constantinople, le roman de Sophie van der Linden fait partie des coups de cœur partagés avec notre amie Auriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour Auriane.
Bonjour Toufik.
Alors, votre lecture, votre point de vue, vous qui t'es présente depuis le début de l'émission.
Mais oui, qui vous ai écouté avec religiosité, comme toujours. Écoutez, moi je trouve ça très intéressant, cette curiosité des écrivains contemporains pour l'orientalisme. Évidemment, Mathias Sénard a largement ouvert la porte et que ça continue comme ça chez les Français, ça me plaît beaucoup. Et puis j'aime beaucoup la fausse candeur de votre conte, la fausse candeur des contes en règle générale, que la littérature française, un peu en ce mois de janvier, retrouve et qui permet évidemment, quand on pose le regard comme ça sur la naïveté, hein, il faut bien le dire, orientaliste d'une part des intellectuels et des artistes du 19e siècle, eh bien le conte fait saillir cette naïveté et fait saillir aussi la possible métamorphose de l'individu au gré de son voyage. Et c'est cette aventure-là que vous racontez qui est évidemment une aventure intérieure autant qu'une aventure romanesque. Et je trouve que vous faites ça avec un vrai talent narratif et vous faites vraiment voir ça peut-être mieux que dans un roman plus réaliste, plus politique tel qu'on pourrait le lire.
C'est pour ça que vous avez choisi d'ailleurs cette manière d'aborder le sujet.
Oui, le roman est aussi le lieu de l'ambiguïté, de l'équivoque, dans, en tout cas dans ces choix que j'ai faits d'être dans un univers flottant qui reste, même s'il est relativement vraisemblable, reste imaginaire. Et c'est vrai que ce choix-là permet de ne pas figer et de laisser ouvertes toutes les interrogations.
Revenons au choix de Transfuge. Outre Après Constantinople, donc le roman de Sophie van der Linden, quels sont vos coups de cœur cette année, en ce début d'année, pardon, Auriane Jeancourt, en littérature?
En littérature, évidemment, on a beaucoup de choses, mais dans ce numéro de février, donc, qui paraît là, nous faisons un grand entretien avec Charles Dancy, qui présente ce dont il a l'art et la manière, une forme de fiction-essai-essai-fiction, qui s'intitule « Chambord des songes ». Vous l'aurez compris, c'est sur le château français qui fête ses 500 ans, et ce n'est pas par passion des châteaux ou des rois que Charles Dancy est allé écrire sur Chambord, mais pour nous interroger, pour s'interroger sur ce symbole du pouvoir et donc sur la mécanique du pouvoir qu'a incarné Chambord et qu'incarne finalement tous les lieux de pouvoir. Donc il a, avec toujours cette légèreté et cette grâce qui est la sienne, il nous fait passer de François Ier, le fondateur, le constructeur de Chambord, à Donald Trump, en passant par Chirac, Sarkozy, enfin toujours, il nous interpelle sur l'imaginaire du pouvoir dont Chambord serait évidemment un des lieux et un des symboles.
Chambord de Charles Dancy, Charles Dancy qu'on retrouve, vous le savez, ça, Auriane, tous les dimanches à 15h sur France Culture pour son émission Personnage en personne. Mm-hmm. On reste dans les rayons livres et on passe aux essais, Auriane Jeancourt.
Absolument, et alors on suit, cette fois on a rencontré Siri Hustvedt, c'est notre deuxième événement de littérature de février. On aime beaucoup Siri Hustvedt à Transfuge, on l'a mis en couverture quand elle publiait son dernier très très beau roman. Et là, elle poursuit ses essais. Et elle, vous savez, sa spécialité dans ses derniers essais, c'est de s'interroger sur le féminisme et de s'interroger sur la manière, et ça va vous intéresser évidemment, Sophie van der Linden, dont s'est construit l'imaginaire patriarcal. Et donc, elle fait des recherches, elle est très scientifique. Siri Hustvedt, elle mêle souvent littérature, sociologie et connaissances de la science, notamment de la psychiatrie. Et donc, elle va aller chercher comment est-ce que s'est construit dans l'imaginaire scientifique certaines idées préconçues, comme celle qui veut que les femmes soient moins scientifiques que les hommes, que les petites filles soient moins bonnes en mathématiques que les hommes, que les hommes seraient totalement mus par la testostérone et donc plus sensibles à la violence que les femmes. Eh bien, elle fait de véritables recherches pour remettre ça en cause, et elle le fait avec un talent indéniable.
Transfuge, c'est pas seulement de la littérature et des essais, mais c'est aussi toute la culture, le cinéma et le théâtre, compris. On commence par le théâtre. Votre coup de cœur théâtre pour ce mois de février, Auriane Jeancourt.
Oui, nous sommes allés rencontrer Falk Richter. Alors, vous savez, Falk Richter, c'est un auteur et dramaturge allemand qui a fait pas mal parler de lui ces 10-15 dernières années avec des pièces extrêmement contemporaines sur le monde d'aujourd'hui, sur la jeunesse, sur le désœuvrement de la jeunesse européenne, sur la finance. Il avait fait une pièce qui s'appelle Trust. Et le revoilà sur l'Europe avec I Am Europe, qui est présenté au TNS et puis qui va faire le tour de l'Europe et sera présenté à l'Odéon en septembre. Bon, évidemment, cette année, parler d'Europe, c'est un sujet on ne peut plus sensible avec les élections. Et donc, lui, il nous interroge pour nous montrer ce qu'est la jeunesse européenne. Il a réuni 8 performeurs de différentes nationalités. Il y a des Belges, des Français, des Portugais, des ex-Yougoslaves, donc une Croate, qui nous racontent leur histoire, comment est-ce qu'ils se sont forgés, est-ce qu'ils se sentent d'une identité particulière. Ils sont souvent eux-mêmes enfants de l'immigration et ils construisent ce spectacle qui est extraordinaire. Ils sont à la fois danseurs, chanteurs et gens de théâtre. Et par ces différents spectacles, ils nous montrent ce qu'est l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire...
C'est intéressant. Et cinéma pour terminer.
Ah oui, alors ça c'est notre couverture. C'est Jazz Uncle, Les Éternels. L'équipe cinéma et moi-même, nous sommes très férus de Jazz Uncle. Il nous a donné un entretien exceptionnel sur le film et sur tout son travail.
Merci Auriane Jeancourt. Et puisqu'on est à partager nos coups de cœur, s'il fallait terminer avec vous, Sophie van der Linden, est-ce qu'un spectacle, un disque, un livre, un film vous a marqué dernièrement?
Alors, je me tiens un petit peu à l'écart de cette rentrée littéraire de janvier, puisque j'essaye d'écrire et donc j'essaye de me préserver une bulle. Mais je vais quand même au cinéma, le dernier coup de cœur, L'homme fidèle, Louis Garrel. J'ai beaucoup aimé cette manière de s'inscrire dans la nouvelle vague et en même temps d'en échapper complètement.
Merci Sophie van der Linden, merci Aurélien Jeancourt d'être passé et bonne matinée sur France Culture.